Vous êtes bien sûr Radio Campus et ses travers sur le 106.6 jusqu'à 14h. Diffusion aujourd'hui de l'entretien que j'ai réalisé à Lille avec Peter Klaasen à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée au Tripostal, lieu emblématique de l'art contemporain à Lille et qui propose un parcours chronologique de 150 œuvres, peintures, sculptures, installations, photographies. Une immersion totale dans l'œuvre d'un artiste au langage plastique très personnel qui répond à l'agression par l'agression, et où s'expriment la solitude, l'angoisse et l'aliénation de notre société occidentale urbaine, industrielle et marchande. Pour une initiation complète à l'œuvre de Klaasen, rendez-vous aussi au lac de Dunkerque pour y voir ses photographies, ainsi qu'aux anciennes écuries de Ron que pour les estampes sur le mur de Berlin. Avec Peter Klaasen, on assiste à la fois au parcours d'un des fondateurs de la figuration narrative, tout en voyant se dérouler sous nos yeux l'histoire de l'Allemagne des 50 dernières années, qui puise ses racines dans la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Né à Lübeck en 1935, Klaasen, le maître de l'aérographe, du collage et de l'association peinture-photographie, qui vit aujourd'hui entre Paris et Berlin, restera sa vie durant marquée par le choc émotionnel d'une guerre qu'il vécut enfant. Le ton est donné dès le début de l'exposition, avec la colonie pénitentiaire, une installation créée spécialement pour l'exposition d'après la nouvelle de Kafka écrite en 1914 et qui met en scène la vision cauchemardesque d'une infernale machine à tuer qui rappelle le sort que connaîtront les juifs dans les camps et, nous dit Peter Klaasen, un langage bureaucratique qui sera celui des SS comme une sorte de prémonition insupportable. Tout le travail de l'artiste est d'ailleurs traversé par l'obsession de l'enfermement, de la violence, du corps fragmenté de la femme. Klaasen joue sur la perception de la réalité et de la fiction, avec pour objectif, après le constat, la réflexion politique et philosophique sur ce que l'homme est capable de faire. On écoute Peter Klaasen à propos de son travail et de son attention à l'histoire de son siècle. Peter Klaasen, bonjour.
Bonjour.
Alors, vos liens avec le Nord et l'île sont anciens ?
Oui, sont anciens, à la fois professionnels et plutôt personnels. Il y a une partie de ma famille, ma femme est de la région du Nord, tout en étant née à Saigon, mais toute une partie de sa famille habite et habitait ici. Et après le départ, disons, du Vietnam, son papa qui était colonel dans l'armée à l'époque a ramené toute sa petite famille très naturellement dans le Nord. Et c'était dans une des galeries ici, pour ne pas nommer la galerie Jacqueline Storm, où j'ai rencontré en 1977 Claudine, et donc que j'ai épousée quelques temps après, et qui est venue vivre avec moi à Paris, où nous avons habité, où nous avons construit, réhabilité un loft dans lequel nous avons passé toute notre vie commune avec les enfants qui sont venus après, jusqu'à malheureusement sa disparition il y a maintenant à peine un mois.
Oh, c'est extrêmement récent. Alors pour revenir à vos origines, vous êtes un enfant de la guerre. Est-ce que sans cette guerre, votre œuvre aurait été différente ?
Elle aurait été différente. C'est tout à fait clair que, étant imprégné par ces horreurs, ces dérives dans les années 40 et la destruction de ma ville natale, je n'aurais jamais fait cette œuvre-là parce qu'elle est liée à des traumatismes et à un refus absolu de toutes sortes de totalitarismes, de gauche comme de droite.
Et d'ailleurs, vous refusez aussi toutes les violences d'une société que vous allez dénoncer.
Je montre en partie à travers mon œuvre, d'une façon évidemment sublimée, transposée, les dérives, les erreurs de toutes nos sociétés. Personne n'en est épargné. Et aucune structure étatique en est complètement gardée. N'est-ce pas, les dérives sont rapides et inattendues quelquefois, même dans les sociétés que nous croyons libérales et démocratiques. Vous savez, nous sommes toujours sur la crête et sur la comment dit-on
Sur le fil.
Sur le fil du rasoir, voilà exactement.
Il faut toujours être vigilant. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un peintre d'histoire ?
Je suis à la fois un peintre de l'histoire et un peintre d'histoire. Au fait, mon lien avec le récit pictural date depuis la fin des années 50, où j'ai cherché une rupture volontaire par rapport à une écriture picturale prédominante qui était celle de l'école de Paris, par exemple. Donc, dans l'abstraction absolue et dans la revendication de l'informel, du tachisme, où il y avait effectivement des artistes éminents qui sont restés, qui ont perduré. Je parlerai, puisque c'est de l'actualité, de Soulages, par exemple, ou Hartung, Lanskoy, Dubuffet. Et ces artistes ont une très, très grande importance dans l'histoire de l'art. C'est tout à fait indéniable. Mais nous, faisant partie d'une jeune génération, avions envie de prendre à bras le corps la société et dans ses changements, dans ses mutations assez brutales au début des années 60, où la société, nos sociétés occidentales, était en train de se restructurer d'une façon assez profonde avec l'avènement de la consommation, la surconsommation, les supermarchés, une sorte de libéralisme ambiant européen et international qui nous a amené évidemment un peu plus tard à la mondialisation et ses dérives aussi. Vous voyez, mais à l'époque, c'était ressenti par notre génération qui étions issus de la guerre comme une libération totale, extraordinaire aussi sur le plan de l'esprit, n'est-ce pas? On avait envie de se libérer d'un certain nombre de conventions, notamment aussi celles des démocraties naissantes ou des structures légèrement dépassées comme en Allemagne avec Adenauer ou en France avec De Gaulle, il faut bien le dire. Et donc une jeunesse avait envie de donner d'autres réponses à la vie et aux conventions. Donc au fait, on est rentré là dans la fameuse contestation de nos sociétés, à laquelle j'ai participé plutôt en tant qu'observateur éloigné, parce que j'avais une petite dizaine d'années de plus qui nous a complètement séparés, évidemment, des jeunes étudiants entre 16, 17 ans et 25 ans, n'est-ce pas? J'avais déjà commencé à m'installer à Paris avec ces structures de galeries, etc., mes expositions, mes premières expositions. Donc j'avais un regard tout à fait attentif, mais pas vraiment actif par rapport aux événements de 1968.
Vous avez plus de recul. Vous êtes né dans une famille d'artistes ?
Oui, c'est à la fois un défi et, comment dirais-je, une obligation de répondre. Mais évidemment pas de répondre par rapport à la tradition que cette famille m'a transmise, mais de la transgresser dans son message d'innovation. Mon oncle était un artiste lié plutôt au paysage nordique, Jean Renold, n'est-ce pas ? Malheureusement, mort pendant la guerre, à la fin de la guerre, à Kaliningrad, comme on dit aujourd'hui, à Königsberg, où il a reçu une grenade offensive. Il est mort sur le champ de bataille. Et mon père étant à l'origine violoniste et a été amené sur le front russe et à péri dans les steppes russes sans qu'on ait jamais eu de nouvelles. Jamais. Ma mère, dans l'expectative d'un retour probable ou improbable, n'a jamais osé se remarier. Donc on était marqué par cette situation assez dramatique sur le plan personnel. Mon grand-père, heureusement, était là. Il a pris un tout petit peu mon éducation en main. Lui était marchand de tableaux, collectionneur, mécène, mais une grande partie de sa collection a péri lors du bombardement en 1942 de ma ville natale, Lübeck.
Votre oncle était élève d'Autodix ?
C'est exact, absolument. Et tout en allant au-delà de cette forme de réalisme très très marqué d'ailleurs par la Première Guerre mondiale, parce qu'il a fait, on dit que ça fait toute une œuvre, toute une réflexion par rapport à la Première Guerre mondiale et ses horreurs. Et mon oncle était plutôt du côté expressionniste, c'est-à-dire elle tendait vers une plus grande libération du geste pictural lui-même, avec cette connotation de l'attachement à la mer Baltique, à ces paysages issus du romantisme allemand. Je vous donnerai comme petite indication Caspar David Friedrich, par exemple, qui a évidemment formulé avec les moyens du 19e siècle ces magnifiques paysages qu'il nous a transmis, mon oncle étant plutôt du côté d'Edvard Munch, n'est-ce pas, donc beaucoup plus contemporain plus proche d'une écriture libérée.
Finalement, d'une guerre à l'autre, vous restez dans une certaine tradition. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de votre enfance à Lübeck, hormis la guerre peut-être ?
Oui, c'était la découverte donc de l'œuvre de Edvard Munch et nous avions la chance d'avoir un très grand collectionneur dans la ville de Lübeck, c'est le docteur Linde qui était un avant-gardiste dans sa recherche à la fois médicale, il était ophtalmo. Et avait des relations, des contacts permanents avec la scène artistique parisienne à la fin du 19e, début 20e siècle, et était ami personnel de Rodin, par exemple, et de Edvard Munch. C'est pour ça que je reviens sur Edvard Munch, qu'il a reçu chez lui. Il avait une très grande maison avec un grand parc, et Edvard Munch à l'époque était démuni, n'était pas encore le génie reconnu aujourd'hui, et le docteur Linde l'avait reçu très généreusement. Et il y a un épisode qui m'avait beaucoup marqué, c'était ses sorties au bord de la mer Baltique dans ces magnifiques forêts de pins, et en plein hiver il faisait des aquarelles et l'eau gelé dans ces petits récipients dans lesquels il trempait le pinceau. Et donc j'ai fait un tout petit peu la même chose, et je trouvais que c'était absolument héroïque d'affronter comme ça cette nature rude. À l'époque c'était des vrais hivers, maintenant on les a plus avec le changement de climat. Mais vous voyez, c'était donc, j'étais dans les traces d'Edvard Munch. J'avais 15-16 ans, n'est-ce pas, j'étais encore lycéen, et c'était une sorte d'identification avec une vie romantique possible, n'est-ce pas. Voilà, c'est des idées qui me traversaient à l'époque avec cet esprit de la découverte et du sacrifice.
À cette époque, vous pratiquiez la peinture sur le motif, donc.
Exactement, ce que j'ai pas renié, mais tout au moins transgressé, mais d'une façon absolument radicale, parce qu'au fait, j'ai d'abord ne plus affronté le paysage en tant que tel, même fût-il modifié par la main de l'homme, mais plutôt le paysage urbain, n'est-ce pas, tout ce qui est architecture, qui est la grande ville, et ceci à travers le médium de la photographie, n'est-ce pas. J'ai donc photographié mes sujets, vous voyez, donc un éloignement absolu par rapport à ce que Edvard Munch, par exemple, a pu, ou Van Gogh, prenons un exemple plus méditerranéen, quoique lui étant hollandais, mais ayant vécu quand même majorité dans le midi de la France, par force, et par goût peut-être aussi. Donc c'est évidemment une rupture absolue avec cette façon de peindre d'une façon traditionnelle et classique, n'est-ce pas. Donc là il y a évidemment une rupture totale par rapport à l'évolution de notre société et les moyens qui nous ont été offerts à travers les différentes techniques que j'ai largement utilisées après aussi.
Dans vos influences formatrices, il y a Dada, Klee, le Bauhaus et le cinéma.
Oui, c'est exact. Et au fait, l'impact du Bauhaus, qui d'ailleurs a été très très marquant à travers l'enseignement en général dans les Beaux-Arts en Allemagne, et notamment à Berlin, où nous avions la chance d'avoir quelques élèves, pas les grands artistes de l'époque, ils étaient tous morts, Kandinsky ou Paul Klee ou Schlemmer, mais nous avions encore un éminent membre du Brücke, Le Pont, est une Schmidt-Rottluff, absolument, Karl Schmidt-Rottluff exerçait son métier, son professorat dans les années 50, et je l'ai croisé, je l'ai rencontré. Je n'étais pas dans la même classe, mais il y avait cette, donc, d'une part, cette idée de la libération de la peinture à travers donc, cet expressionnisme à l'allemande, n'est-ce pas, constitué par Kirchner, Schmidt-Rottluff, Haeckel, Pechstein, etc. Et d'un autre côté, cette prise de conscience du monde du Bauhaus, qui était plutôt à gauche, et d'ailleurs très très vite interdit par le régime hitlérien. Moi, je suis marqué effectivement par la construction de l'image, par la prise de enfin, en main d'une réalité sociale, urbaine, donc des thèmes qui étaient vraiment liés à la vie quotidienne et d'une façon plutôt critique, plutôt en décalage avec toutes sortes d'acceptations de la situation en tant que telle. D'ailleurs, c'était difficile. Nous étions, il faut le rappeler, quand même encore du temps de la guerre froide, Berlin étant un îlot, une enclave entre deux systèmes, capitaliste et communiste, n'est-ce pas? C'est un enjeu politique très intéressant. Et c'est pour ça aussi intéressant pour un jeune artiste, parce que cette situation aiguisait d'une façon tout à fait particulière l'esprit et la conscience qu'il fallait prendre et ses responsabilités qu'il fallait prendre par rapport à une situation politique intéressante et originale.
Alors justement, en cette année commémorative des 20 ans de la chute du mur, vous êtes un témoin privilégié de l'histoire de l'Allemagne. Quelle était à la fin de la guerre votre perception des rapports Est-Ouest et que sont-ils maintenant ?
Mais j'étais donc né à Lübeck, où je suis resté pendant toute ma jeunesse, et Lübeck s'est trouvé vraiment à la lisière, à la frontière même avec la future RDA. Vraiment, on était à 10 kilomètres, on voyait donc se construire aussi ces rideaux, ce fameux rideau de fer qui était palpable, réel. Nous avions pris connaissance et conscience très rapidement d'une situation tout à fait particulière par rapport à l'Allemagne, et d'abord l'Allemagne était encore sous occupation, n'est-ce pas? Il y avait des secteurs, des zones d'influence américaine, anglaise, française, soviétique, bien entendu, et ça aide à comprendre la spécificité du passé de l'Allemagne, et on se pose la question, comment on en arrive là, n'est-ce pas? Et alors d'ailleurs, j'ai eu un petit épisode tout à fait anecdotique, quand le 5 ou 6 mai, les Anglais ont occupé la zone nord, donc Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe, etc. Un matin, magnifique mois de mai, on était à peine sortis de la maison, nous entendions une musique, un bruit, une musique absolument inimaginable et très étrange. Et on voyait arriver, j'avais 8 ans et demi, je voyais arriver des gens ordonnés, marchant, mais invraisemblablement déguisés. Pour nous, c'était une compagnie écossaise qui joue en kilt, qui jouait la cornemuse, un son extraordinaire jamais entendu auparavant. Et là, je me suis posé la question, j'ai dit, c'est ça nos ennemis, ce que on nous a dit? C'était des gens absolument extraordinaires, d'une très grande générosité, qui nous ont aidés, nous les enfants et les autres. Vous voyez donc comme quoi finalement la politique, la propagande peut semer des certitudes n'est-ce pas, entre guillemets, dans l'esprit des gens, et notamment des enfants qui sont sans fondement, n'est-ce pas, comme quoi on peut manipuler les esprits et les gens. Ça dit long sur l'efficacité des systèmes totalitaires, n'est-ce pas?
Justement, dans votre travail d'artiste, vous avez lutté contre toutes ces manipulations. À quoi ressemblait Berlin quand vous découvrez la ville en tant qu'étudiant aux Beaux-Arts?
À Berlin était encore ce que vous avez vu dans les actualités et qu'on vous montre d'ailleurs actuellement, justement lors du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin, était encore meurtri, blessé, en ruine. Il y avait très très peu de bâtiments qui ont été reconstruits parce que vous voyez, 10 ans après, en 54-55, quand je suis arrivé à Berlin, il y avait toutes les traces, les impact, les rues vides, les champs de ruines ou de tout simplement déblayés, mais on voyait sur 2 ou 3 kilomètres aux alentours sans se heurter à un bâtiment, n'est-ce pas? Ça a été vraiment assez dramatique, mais les infrastructures, notamment de l'enseignement, les musées qui commençaient à s'ouvrir, être réhabilités, rénovés, et ont commencé à une vie culturelle très rapidement. Ça, je crois que c'est la force de Berlin qui a toujours su répondre, même pendant le temps du communisme, a toujours trouvé des moyens de survie. Et c'est un peuple très inventif, très aguerri par rapport aux catastrophes. C'est une ville qui composée de beaucoup d'éléments, notamment par sa position géographique. Berlin accueillait à l'époque toute l'intelligentsia des pays de l'Est, n'est-ce pas, de la Russie d'abord et des pays du Balkan, par exemple. Il y avait un magnifique mélange de toutes ces sensibilités. Et Berlin a toujours été comme ça, une sorte de carrefour où les esprits les plus audacieux et les plus inventifs se donnaient rendez-vous. Et aux Beaux-Arts même, j'ai côtoyé des artistes, enfin des étudiants artistes américains, suisses, hollandais, chinois, de Hong Kong. C'était encore une crown colony, colonie de l'Empire britannique. Mais c'était toujours intéressant avec des esprits complètement ouverts, parce qu'il fallait venir avec un esprit très ouvert à Berlin à cette époque-là. Et ça, il était plus commode d'aller à Munich, n'est-ce pas? Mais Munich était complètement traditionnel, ancré dans son passé. La Bavière, c'était très rassurant avec son petit folklore. Non, Berlin était une ville audacieuse qui se réinventait par rapport aux aspérités, par rapport aux difficultés spécifiques liées à sa position politique.
D'ailleurs, aux Beaux-Arts, vous avez rencontré Baselitz, qui était étudiant. Dans quel esprit vous avez abordé dans les années 80 votre travail sur le mur de Berlin?
Mais c'était au fait une logique interne à ma démarche, c'est-à-dire repérer les signes même de l'évolution de nos sociétés, c'est-à-dire lié toujours à la ville, à la grande agglomération, à la transformation de ces sociétés-là, et au fait, puisque j'avais commencé un travail photographique aussi bien sur New York que sur Barcelone que sur Tokyo. Il me paraissait absolument incontournable de faire un travail à partir des graffitis du mur de Berlin. Je n'ai, pour le dire clairement, jamais apposé le moindre graffiti, évidemment, sur le mur. Je n'ai photographié les graffitis, les dessins, les graffitis, dans son ensemble, sur des kilomètres, plusieurs milliers de clichés, et dans sa transformation. Je suis revenu 3, 4, 5 ans, plusieurs fois par an, pour noter par la photographie les modifications, les réponses possibles par rapport à tel ou tel slogan, par rapport à tel ou tel dessin, un cadavre exquis, vivant, extraordinaire. Et donc ces traces-là ont fait l'objet d'un travail de réflexion avec un déblaiement, une recomposition d'un certain nombre d'éléments figuratifs, picturaux, bureau et de l'écriture pour constituer un nouveau contenu, n'est-ce pas? Ça n'était pas seulement une reproduction en tant que telle, c'était un travail de rapprochement, n'est-ce pas? De réorganisation de l'image par rapport au texte qui donnait donc forcément un autre contenu à la chose. Et donc ce travail s'inscrit dans l'exploration des ingrédients des grandes villes, fussent-ils, je sais pas, comme à Tokyo ou à New York, de la publicité, du néon, des lumières, des slogans, des grandes affiches, etc. Et dans le cas de Berlin, par rapport à ce mur absolument insupportable et si cruellement ressenti par la population, qui suscitait justement ces réponses, ces interventions sur le mur même, n'est-ce pas, comme un cri permanent au dialogue, au fait. Et ce dialogue s'instaure très curieusement. Ce mur qui était fait pour séparer, finalement, fait en sorte que les gens commencent à dialoguer, ce qui est absolument intéressant. Parce que c'était un effet tout à fait inattendu. Et les dialogues s'instaurent autour d'une même douleur, autour d'une même impossible acceptation d'un état de séparation, n'est-ce pas, d'une ville comme celle de Berlin, n'importe quelle ville d'ailleurs, ce qui est absolument insupportable, de séparer les familles comme ça a été le cas.
C'était une façon aussi de prendre le pouls de la ville.
Oui, en plus, effectivement, elle est toujours liée à une actualité. À un moment donné, il y avait la grande discussion du réarmement de l'Allemagne avec bombes atomiques, etc., etc., qui a été largement contestée par la gauche. Et après, nous avions les événements de 68. Tout ceci s'est imprégné, à un moment donné, sur le mur. Et donc, les thèmes politiques ou sociaux se sont exprimés d'une façon très intelligente, souvent très poétique, très fort, avec des raccourcis extraordinaires. D'autres artistes plus connus comme Haring se sont vraiment exprimés sur le mur. Ils ont laissé des traces véritables que j'ai d'ailleurs eues dans le champ de mes photographies et que j'ai repris comme une sorte de citation, une présence indélébile d'un artiste comme Haring par exemple.
Cela fait 50 ans que vous avez choisi la France pour vivre et travailler. Aujourd'hui, avec le recul du temps, est-ce que vous referiez le même choix ?
Ah, je ferai certainement le même choix par affinité. Vous savez que j'ai très très vite trouvé des gens qui ont compris mon travail, qui ont bien voulu l'accompagner à travers les expositions, des gens importants de galeries ou de musées. Aujourd'hui, je dirais un jeune artiste choisirait pas forcément Paris, qui est maintenant une des villes importantes de la pratique de l'art et de la culture, mais il y a New York, il y a Berlin, vous voyez, donc Berlin est redevenu un centre d'expérimentation extraordinaire, comme ça a été sa vocation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc vous voyez, en tant que jeune Allemand, je resterai peut-être même en Allemagne, parce que les structures se sont rétablies, il y a les magnifiques musées, il y a des galeries très puissantes. Où je choisirais peut-être l'Amérique, peut-être Los Angeles. J'adore cette ville qui est assez détestée et mal connue, ou New York justement, où on peut évidemment se frotter à la créativité audacieuse, inventive. Donc je pense qu'il y a plusieurs options pour un jeune artiste, mais à mon époque, à la fin des années 50, il n'y avait que Paris qui comptait, c'est tout à fait clair.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez pratiqué une sorte de pop art à l'européenne ?
On peut pas le dire, parce que vous voyez, il y a une grande confusion, mais elle est le résultat d'une critique un tout petit peu superficielle et je dirais même, pour être plus agressif, un peu défaillante. Par rapport à une une analyse approfondie et qui mériterait ce phénomène qui n'est pas un phénomène américain, c'est que les Anglais et les Italiens, à partir de la même période, à la fin des années 50, ont commencé à rompre avec le dictat de l'abstraction. C'est un phénomène assez général et les Américains ont trouvé des réponses, les Européens en ont trouvé d'autres, et je pense dans le cas spécifique de la France, où j'ai commencé à m'y installer depuis 58-59, il y avait une réponse autre à donner. Les Américains avaient plutôt tendance à encenser, sauf exception, à encenser le American Way of Life, la manière de mieux vivre, et aux États-Unis, une grosse identification, American Dream, n'est-ce pas, le rêve américain. Il y avait une identification avec leur pays, avec les ingrédients, bien entendu, que produisait cette société américaine qui avait, par rapport à l'Europe, avancé, bien entendu, dans le domaine de la publicité, de la consommation, et du bien-être quotidien, etc. Mais je pense que, là, je parle au pluriel, les artistes de ma génération avec lesquels nous avions formé un groupement ou regroupement autour d'un label, la figuration narrative, donc délibérément une approche réaliste, picturale, revendiquant des ressources, enfin des sources plus exactement liées directement à l'avènement de l'image, de la publicité, du cinéma, de la télévision, etc. Donc complètement liées à la pratique d'une peinture plus ou moins figurative, mais dans un esprit très critique, à un tel point que l'exposition Mythologie quotidienne de 1964 au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui a été organisée par la conservatrice à l'époque, une jeune conservatrice audacieuse, Madame Marie-Claude Danne, qui a été d'ailleurs évincée après cette exposition, qui faisait figure d'une exposition scandaleuse. Mythologie quotidienne numéro 1, organisée par le critique d'art Gérald Gassiot-Talabo, a été très très contestée, n'est-ce pas? Donc ça montre que nous étions en opposition déjà, en anticipant avec nos moyens les événements de 68, sur une certaine... C'est une trajectoire de la contestation et de la distanciation et de la prise de conscience critique par rapport à une évolution de la société que nous considérions un tout petit peu aliénante, n'est-ce pas? Et vous voyez, donc, nous, on était dans une position farouche opposition par rapport au système existant dans nos sociétés occidentales, en Europe tout au moins.
Pourquoi vous avez choisi la technique de l'aérographe pour vous exprimer?
Mais ça, c'est un choix très, très délibéré, parce que lié à l'approche photographique. Je considérais que la photographie joue et jouait un rôle de plus en plus déterminant dans la perception de la réalité, n'est-ce pas? À travers la presse, la production de publications à grand tirage, la télévision, le cinéma, etc. La réalité était ressentie comme à travers un filtrage qui était la photographie. Et la photographie, aujourd'hui, prend toute sa place, toute sa signification dans le domaine de la création, n'est-ce pas, qui était à l'époque un peu contesté, un tout petit peu mis à l'écart par rapport aux arts nobles qui étaient la peinture, la sculpture, etc. Donc la photographie permettait d'abord faire une approche assez immédiate de la réalité. Et moi, pour traduire le climat, le camailleux, par exemple, des photos noir et blanc, me permettait, à travers l'utilisation de l'aérographe, de reproduire un tout petit peu ces climats, c'est d'évoquer finalement la source photographique de mes approches de la réalité. Donc, le choix de l'aérographe, donc d'une technique tout à fait spécifique que je n'ai jamais abandonnée, qui accompagne encore aujourd'hui, malgré le changement de certaines techniques que j'ai utilisées, accompagne systématiquement mon travail de peintre. C'est une matière, c'est un élément indispensable et complètement lié à l'approche picturale de mes sujets. C'est absolument indispensable parce qu'elle est liée à l'idée de du premier filtrage qui constitue la photographie, l'approche photographique.
Alors, est-ce que figurer, c'est aussi défigurer ?
Moi, je crois qu'il faut voir les choses tout à fait positivement. Il est clair que la simple reproduction fidèle d'une réalité, disons, sur le plan rétinien est évidemment absurde. Il faut forcément transfigurer, transposer, s'éloigner d'une réalité première. Ça crée forcément un rapport de modification, et ce qu'on appelle une écriture. Donc vous arrivez à une écriture personnelle justement en transgressant le simple fait de la reproduction carte postale, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des figurations, mais que je vois comme un élément tout à fait positif, sinon nécessaire, à l'identification d'une écriture spécifique à laquelle on reconnaît votre œuvre, votre démarche. Je pense que chaque artiste tend vers cette identification à travers un langage qu'il développe au fur et à mesure de son travail sur les décennies, bien entendu. Donc, je pense que c'est une revendication que chaque artiste devait avoir. Donc, la défiguration crée forcément une nouvelle forme de figuration, n'est-ce pas? Donc, on est à nouveau dans un style. C'est donc quelque chose qui est constructif, qui n'est absolument pas une idée de dénigrement ou de d'approche négative. Elle est au contraire constructive et donc significative.
C'est une reconstruction. Alors, vous avez dit, le réel n'est rien d'autre que ce que je vous montre. Alors, est-ce que vous êtes hyper réaliste ou tout simplement réaliste ?
Ah, surtout pas hyper réaliste, qui est une construction tardive par rapport à ma démarche qui a commencé au début des années 60. Et le terme hyperréalisme est un terme que je n'ai jamais ressenti comme quelque chose d'authentique. Je trouve justement là, on est dans le phénomène de la carte postale, de la reproduction à outrance d'une réalité photographique non transfigurée et donc finalement profondément ennuyeuse.
Alors, vous avez choisi pour votre rétrospective au Tripostal de revisiter Kafka et un texte prémonitoire de 1919, La colonie pénitentiaire. Pourquoi ?
Mais pourquoi ? Parce que, au fait, cette rencontre, pour moi, a lieu déjà à l'âge de 17-18 ans, disons. Je ne me rappelle plus exactement à quel moment j'ai eu accès à cette littérature. Une idée qui m'a hanté profondément depuis quelques décennies, et c'était vraiment le moment de réaliser cette pièce parce que significative, je parle de la nouvelle de Kafka, significative pour toutes les dérives, les exactions, les cataclysmes qui ont accompagné notre existence depuis le début du siècle. On évoquait tout à l'heure la Première Guerre mondiale, et donc cette œuvre a été écrite et publiée. Kafka en a fait la lecture en 1919, au vu des massacres de la Première Guerre mondiale déjà, n'est-ce pas ? Mais elle renvoie évidemment d'une façon tout à fait prémonitoire, donc significative, à toutes les toutes les catastrophes qui sont arrivées après. On parle par exemple de l'Holocauste, des déportations, donc de la Deuxième Guerre mondiale, de la bombe atomique et pourquoi pas de Guantanamo. Vous voyez, donc on est absolument dans cette perspective de l'horreur et de la dérive humaine et dans toutes ces erreurs, ces effrois, ces dérives, donc quelque chose qui accompagne quasiment d'une façon permanente tout le XXe siècle, qui est quand même un siècle de la et la violence, il faut bien le dire, n'est-ce pas? Kafka ne le décrit pas comme une œuvre violente, mais comme une sorte de... je dirais presque un sacrifice, une catharsis, une purification. Hein. Mais là, on est dans une interprétation que je ne partage pas complètement comme d'autres analystes. Et je trouve qu'il décrit une machine comme réellement elle a pu exister. On aurait pu imaginer cette machine qui... tue, qui détruit, à travers une punition qui est inscrite sur le corps du condamné. Et donc vraiment quelque chose qui a été décrit d'une façon minutieuse et réaliste, ce qui m'a permis de traduire avec des éléments descriptifs de la nouvelle de Kafka complètement la scène, la scénérie. Donc c'est une grande installation, longueur de 7-8 mètres sur 3 mètres d'auteur, protégée par un grillage, donc une machine qui est en cage en quelque sorte, avec une musique absolument extraordinaire de Pascal Dussapin, qui a bien voulu accompagner cette œuvre, et qui pour moi est une sorte de quintessence des angoisses, des craintes que je peux avoir, et depuis très tôt, depuis ma prime jeunesse, par rapport à toutes sortes d'écarts et de dérives de nos sociétés.
En tout cas, cette machine fait froid dans le dos. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui Peter Klazen en tant qu'artiste ?
C'est-à-dire, l'accompagnement en permanence d'une façon extrêmement éveillée à travers les différents médias, la scène telle que je la vis dans mon contexte social et créatif, c'est-à-dire toujours à l'affût des changements de notre société, mais évidemment lié à un parcours très personnel. Vous savez que ce langage que je montre d'une façon si éloignée et objective contient aussi ses sources même dans l'intime de l'artiste, c'est-à-dire de cette angoisse de la mort, de l'isolement, de la douleur. Ce sont des choses qui nous accompagnent et qui nous attendent, qui nous menacent à chaque instant de notre vie. Donc faire une prospective par rapport à ça, c'est évidemment impossible et certainement imprudent. Donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui ce que je ferai dans 2 mois ou dans 1 an, mais je sais que je vais faire et je vais pouvoir et je commenterai encore notre actualité, notre vie que nous partageons, puisque je suis à l'intérieur de cette société, je la partage avec les autres, avec vous tous, et donc de là je revendique une certaine authenticité de ma démarche.
Peter Klazen, merci.